j'ai tout de suite su que j'allais recréer une marque forte, positionnée sur son marché. Donc, je le savais. Et je savais plusieurs choses. Je savais que ce serait sur la fiscalité, parce qu'on est toutes les deux fiscalistes. Je savais que je voulais restreindre le champ de mon, le spectre de mon activité. Et je savais que je voulais faire une marque qui soit vraiment sur de la haute valeur ajoutée. Bold était un peu mal considéré par moment. Et ça me dérangeait aussi parce que c'est beaucoup plus dur de faire monter une marque en valeur que de la faire descendre d'un certain point de vue. Donc, voilà. Mon objectif, c'est vraiment de créer une marque qui déjà se positionne sur son marché avec moyen de redescendre, mais pas une obligation de ramer un peu pour démontrer qu'elle n'est pas, entre guillemets, low cost, ce qui a un peu au début, en tout cas, pu être le reproche qu'on faisait à Bold. Donc, j'avais pris cette décision qui était un petit peu, qui était tout simplement le fruit de mes expériences passées. Et puis autre chose, en tant que fiscaliste, je savais aussi que je ne voulais plus faire du B2C, donc parler aux personnes privées. En tant que fiscaliste patrimonial en plus, puisque moi, mon métier d'origine, c'est le patrimoine, de facto, je m'adressais aux personnes privées. Quand bien même ce sont des entrepreneurs, c'est leur argent personnel, c'est leur problème personnel, et c'est pas du tout traité de la même façon que les problèmes de l'entreprise. Donc, je savais que je voulais faire du B2B, que je voulais continuer à parler aux entreprises. Donc, c'est parti comme ça. Mon associée, elle, ne faisait que de la recherche des leviers fiscaux et de la recherche et l'innovation. Donc, je savais qu'on partirait sur ces sujets-là, que je maîtrisais aussi, et sur lesquels on serait confortable ensemble pour produire quelque chose à valeur ajoutée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, si je puis dire, à remettre les mains dans le cambouis, puisque avec Bold, pendant 5 ans, de fait, je n'étais plus vraiment dans l'opérationnel. J'avais une équipe qui était importante, et moi, je dirigeais l'entreprise. Donc, j'ai commencé un peu à me réintéresser concrètement à ce qui se faisait dans cette matière-là. Et il se trouve que, à ce moment de l'histoire, il y a une transition qui se passe, c'est-à-dire que ces leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, il faut savoir que c'est quelque chose, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les pays du monde font du dumping fiscal et essayent de faire en sorte que certains contribuables soient favorisés par rapport à d'autres. Et la France a toujours choisi la recherche et l'innovation comme sujet de dumping fiscal. Donc déjà, si tu veux, c'était assez intéressant de voir que c'était des leviers qui existent depuis 1983, à 80% utilisés par les grands groupes. Donc, des choses qui sont assez pérennes et qui sont nécessaires pour booster la performance des entreprises en France. Donc, déjà, sur le plan économique et même en termes de lobbying, il y a un intérêt au sujet. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'à 98%, ces leviers étaient utilisés pour les sciences dures. Donc, pour des gens qui font de la tech, de la pharma, de la métallurgie, des choses comme ça. Et en parlant avec mon associé et en comprenant comment ça fonctionnait de façon plus précise, et des clients qu'on avait déjà, parce que on est parti avec rien, mais elle avait cette petite clientèle personnelle et on a quand même un réseau et des gens qui ont voulu poursuivre avec nous. J'ai compris que les entreprises pouvaient utiliser ces leviers fiscaux pour des sujets liés aux sciences humaines et sociales. Et là, en fait, j'ai réalisé donc, en tant qu'entrepreneur, que ça s'adressait aussi à moi. Et c'est là que le shift a commencé à se faire dans mon esprit, où je me suis dit, mais si ça s'adresse à moi, ça s'adresse à tout le monde. En tant qu'avocat. Moi-même, je peux faire du CIR. C'est quelque chose que j'avais jamais identifié avant. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai déroulé le problème, sur le plan bien entendu juridique et fiscal, mais également sur le plan entrepreneurial. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait là un nouvel espace de croissance qui était totalement sous-exploité. Il faut savoir que ces leviers fiscaux ne sont pas du tout exploités par les avocats. Aujourd'hui, il y a quoi, peut-être 2 cabinets d'avocats ou 3 cabinets d'avocats qui font ça sérieusement. La plupart des gens qui font les leviers fiscaux, les recherches et l'innovation, sont des cabinets de conseil qui ne sont pas avocats. Donc, ça m'a indiqué qu'il y avait un chemin de croissance potentiel. Et donc, j'ai commencé à creuser ça, mais ça a été extrêmement rapide, puisque dès septembre, on était reparti. En fait, si tu veux, la seule chose qui m'a freinée, c'est qu'elle a terminé son préavis en juillet, alors que moi, j'étais partie en mai.
Quelle est votre offre en ce moment chez Ether? Tu vois, comment est-ce que tu as reconceptualisé les choses, du coup, partant de là, partant de ce constat que il y a ce mécanisme fiscal d'avantages fiscaux liés à la recherche et innovation, constatant que tu as plein de clients qui sont des entreprises qui en fait n'utilisent pas par méconnaissance de leur existence ou que ça peut s'appliquer à eux. Ces mécanismes, comment est-ce que vous avez pensé les choses, structuré les choses? Voilà, toute la partie un peu offre, tu vois.
Alors déjà, c'était pas facile parce que on a appris avec la croissance de l'entreprise et des clients. Au départ, on part vraiment de notre métier qui est la conformité fiscale. Il faut pas oublier que nous, les avocats, notre métier, c'est la conformité. Et c'est très important de comprendre que la conformité, c'est pas le domaine où il y a le plus de créativité. Mais c'est extrêmement important pour nos entreprises. Donc on est parti de ça, et en étudiant la conformité fiscale, on comprend que ça crée une colonne vertébrale très forte. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une pratique d'exploration dans une entreprise. Je suis une entreprise, je veux être entreprise libérée et faire la semaine de 4 heures. Je suis obligée d'explorer des champs en sciences de gestion. Pour explorer ces champs en sciences de gestion, je suis bien obligée de lire de la littérature académique. Et de ça, je fais des expérimentations dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle techniquement de la recherche. Ce qu'ignorent la plupart de nos clients. Quand je comprends tout ça, je me dis, on a un petit problème quand même. Contrairement à Bold, où on était ce qu'on pourrait dire en inbound, c'est-à-dire que les clients, les prospects venaient à nous, on avait des dizaines d'appels de gens qui voulaient prendre notre service, et évidemment, il fallait transformer, mais on avait quand même des demandes spontanées. Là, il est évident que j'allais pas aller faire de l'AdWords sur Google, tu vois, pour aller chercher des clients, ou attendre qu'on vienne me voir pour me demander de faire de la recherche en innovation sociale, parce que j'aurais pu attendre longtemps. Donc, il a fallu aller taper aux portes des gens pour leur dire « Mais savez-vous que ça existe ?» Et ça a donc été une démarche marketing, si je puis dire, puisque c'est ça ce que tu me demandes, qui a été complètement différente. C'était pas du tout la même façon d'aller chercher nos clients. Donc là, il a fallu un peu se creuser la tête. D'abord, évidemment, on a commencé par se demander si on pouvait pas faire du mailing, puisque c'est autorisé, hein, n'est-ce pas ? J'ai pas besoin de vous le dire. En tant qu'ancien élu de la profession, je pourrais vous l'expliquer si besoin. Mais c'est autorisé par l'article 10 du règlement international. Donc, on a commencé à identifier la possibilité de faire des mailings pour informer les clients. Et c'est vrai que là, on a eu des premiers déjà contacts. Et on s'est rendu compte que en commençant à travailler avec nos clients, qu'en fait, la partie crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire la partie financement, c'était presque accessoire pour eux. C'est-à-dire le simple fait déjà de structurer et de piloter une cellule de recherche en innovation sociale était déjà déterminant et pouvait déjà même en soi être un service, qui n'est pas a priori un service juridique. Et là, ça a commencé à nous faire évoluer beaucoup. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, je transforme complètement mon activité puisque je la split et que le cabinet avocat se sépare du cabinet de stratégie en innovation. Et ça, c'est un an après. Donc, on commence à comprendre qu'en fait, on peut apporter d'autres choses qui sont bien plus profondes parce que finalement, quand en utilisant la compliance fiscale, on crée une structure à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, vous prenez le cas d'une entreprise à mission qui écrit dans ses statuts que sa mission, c'est par exemple la durabilité et l'économie circulaire, j'en sais rien. Une fois qu'elle l'a déclaré, bah, finalement, c'est juste des mots qui sont posés dans les statuts. Et en créant une cellule de recherche en innovation sociale dans l'entreprise, on fait vivre cette mission en permanence, c'est-à-dire que on démontre qu'on continue à innover tous les jours sur cette mission. Et donc, on travaille sur la marque employeur, on travaille sur l'ensemble des parties prenantes, les fournisseurs, les clients, etc. Donc l'impact pour l'entreprise est beaucoup plus fort qu'on imagine. Et en plus, nous, on leur dit, tout ça, tout ce risque que vous prenez, en plus, nous, on va vous trouver des financements publics. Donc, si tu veux, c'est devenu quelque chose qui était beaucoup plus puissant. Fort de ça, on a commencé à se dire qu'il fallait se positionner sur des salons. Et donc, on a pris la décision complètement dingue d'aller faire Vivatech. Parce que quitte à faire un salon, autant faire le plus gros directement. Donc, on s'est positionné sur Vivatech et on a pris un stand. Et là, on s'est dit, mais il va falloir qu'on ait quelque chose à donner aux gens. Parce que faire un salon comme ça, si on n'en garde rien et qu'on a juste dépensé l'argent du stand parce que c'est juste hors de prix, il faut absolument qu'on trouve une idée. Et l'idée qu'on a eue, c'est de faire un petit magazine, une petite revue, où on interviewait nos clients et des gens en fait qui travaillaient sur l'innovation sociale, qui n'étaient pas forcément des clients, mais qui potentiellement pouvaient le devenir aussi grâce à ces interviews. Ça a été le cas. Donc, on a décidé de faire un magazine. Bon, c'est un peu une folie dingue, hein, parce qu'on a fait ça en 7 semaines chrono, 96 pages. C'est bête que je ne l'ai pas emmené, je l'aurais donné à tous, parce que j'en ai plein au bureau. Mais si vous le voulez, vous aurez qu'à m'envoyer un message sur LinkedIn et je vous l'enverrai. On a fait une revue de 96 pages avec une dizaine d'interviews, avec des articles de fond. Parce que en parallèle de ce travail, j'ai rencontré des chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont entrés dans notre comité scientifique, puisqu'on a eu besoin d'eux pour aider nos clients à travailler sur l'éligibilité des projets. Et donc, on a Elsa Godard, qui est docteur en philosophie et psychologie et habilitée à diriger des recherches. On a Quentin Génicel, qui est un doctorant en sciences de gestion et qui est une personne extrêmement brillante et avec qui on travaille énormément sur les dossiers de nos clients. Et on a aujourd'hui Lise, qui rejoint aussi notre comité scientifique. Donc, on a un comité scientifique interne et donc, ils ont aussi, eux, écrit sur l'intérêt de créer ce type de cellules de recherche à l'intérieur des entreprises. Et en fait, cet outil de communication a été déterminant, d'abord parce que ça pèse quand même, et on l'a distribué à VivaTech largement, on l'a même donné au président de la République, c'est quand même passé au petit journal, hein, pardon. Mais... je dois dire que je suis pas peu fière. Je lui ai donné moi-même. Il m'a demandé si c'était un cadeau. Je lui ai dit oui, monsieur le président, c'est un cadeau. Je sais pas s'il l'a lu. En tout cas, il l'a eu entre les mains et il l'a regardé et c'est passé au petit journal. Voilà. Avec le logo Ether. Donc voilà. Donc on l'a donné à toutes les personnalités politiques, évidemment, qui étaient présentes sur VivaTech, mais évidemment, à toutes les entreprises qui sont passées sur notre stand. Donc ça a été un outil de communication assez fort aussi. Donc on s'est tout de suite positionné, comme je vous le disais au départ, on voulait se positionner en tant que marque à un niveau d'excellence et le magazine et le salon ont été tout de suite déterminants pour avancer dans cette voie.